Cousins et cousines. Chapitre 2. Sur les limites des comtés de Hereford et de Worcester, sur des pentes ondulées, s'étendent les beaux pâturages de Mahern Hill. Un gros livre rouge, cher à l'aristocratie anglaise, m'apprit que le domaine de Locksley Park se trouvait dans ces parages, où le chemin de fer nous débarqua dès le lendemain. Nous descendîmes dans une auberge dont l'isolement pittoresque séduisit mon compagnon. Cette admirable région offre comme un résumé de la physionomie générale des plus beaux paysages anglais. Grâce aux pluies récentes, on aurait pu se croire en plein printemps. Les prairies verdissaient, et déjà, les haies étaient en fleurs. Du haut des collines, notre regard embrassait un vaste panorama qui changeait sans cesse d'aspect sous l'influence d'un ciel capricieux. Le climat américain possède la beauté infinie du bleu. Le climat anglais a la splendeur des nuages combinés et animés. Nous les voyions s'empiler, se dissoudre, se confondre, s'isoler, tachant de gris l'azur, s'étendre, tourmenté par la brise, en surface marbrée, puis éclater en un flot de lumière ou se perdre dans une brume argentée. Suivant la grande route, nous gagnâmes un village qu'il me sembla reconnaître, tant il me rappela les contes que j'avais lus dans mon enfance. Sur la place, nous rencontrâmes un laboureur en blouse blanche, une vieille, non la vieille femme légendaire avec son manteau rouge et son visage de casse-noisette, et un gamin que Gainsborough aurait voulu peindre. Plus loin, une petite église tapissée de lierre, un chef-d'œuvre d'art rustique, et dont le cimetière environnant, malgré ses saules pleureurs, n'évoquait pas la tristesse. « À la bonne heure !» s'écria Searle. « Voilà une église. Elle ferait croire aux passants que c'est tous les jours dimanche. Je veux que l'on m'enterre à l'ombre de ce clocher. N'oubliez pas nos conventions, » dis-je en riant. « Sinon, je vous abandonne. » Bientôt, nos pieds foulèrent le sol du domaine de Sir Richard Searle. On nous avait prévenu que le parc restait ouvert aux visiteurs et que les curieux étaient parfois admis, sur leur demande, à parcourir le manoir. Dans le vaste enclos, plus d'un éperon des grandes collines voisines se perdait sur des pentes boisées, dans des vallons dont on n'apercevait pas les limites. Ici, l'homme n'avait rien tenté pour gâter la nature. Tout poussait libre et sauvage, comme dans la villa d'un prince italien, trop pauvre pour payer des jardiniers. Jamais je n'ai vu une propriété anglaise afficher un tel air d'innocence. Les nuages venaient justement de se dissiper et nous jouissions d'une des 12 journées vraiment exquises que le ciel accorde au climat anglais, journée d'une pureté inconnue sous des latitudes plus clémentes. On eût dit que la douceur de l'atmosphère venait de faire éclore les primes verts qui étoilaient les avenues ombragées. Après avoir franchi la région extérieure de la propriété, nous pénétrâmes dans le cœur même du parc, par une grille dont le temps avait détruit les dorures. Là, les pentes devenaient plus douces, les arbres plus espacés, et les daims apprivoisés broutaient au bord d'un cours d'eau qui descendait des collines. Alors seulement, nous vîmes se dresser, au milieu des terrasses et des parterres d'un immense jardin, la sombre façade du manoir, dont la construction remontait à l'époque de la reine Élisabeth. Vous pouvez errer ici comme un prince proscrit autour du domaine de l'usurpateur, dis-je à mon compagnon, et penser qu'il y a des gens qui ont joui de tout cela pendant des siècles, s'écria Searle. quelles légendes, quelles histoires raconteraient ces vieux chênes s'ils avaient une voix. Je vois surgir devant moi mille visions de mon passé tel qu'il aurait pu être. » Il se tut, puis reprit tout à coup en se tournant vers moi d'un air irrité. « Ah, pourquoi m'avez-vous conduit ici ? Pourquoi m'avoir infligé le supplice de ces vains regrets ?» À ce moment, passa près de nous un domestique en livrée qui se dirigeait vers la maison. Je l'interpellai et lui demandai si nous aurions quelque chance d'être admis. Il répondit que Sir Richard était absent, mais que la femme de charge consentirait sans doute à faire les honneurs. « Allons, » dis-je à Sir en lui prenant le bras, « videz la coupe, bien qu'il se mêle beaucoup d'amertume à sa douceur. » Nous franchîmes une dernière enceinte et pénétrâmes dans des jardins soigneusement entretenus. Le manoir, avec ses nombreux pignons, ses porches, ses tourelles, ses croisées en saillie, ses rideaux de lierre et ses toits pointus, offrait un admirable échantillon de l'architecture du XVIIe siècle. Il se dressait au milieu de larges terrasses qui dominaient le vaste horizon boisé. Notre requête avait été transmise à un maître d'hôtel qui daigna ne pas nous faire attendre. Il répéta que Sir Richard était absent, mais que l'on venait de prévenir la femme de charge. Serions-nous assez bons pour lui remettre nos cartes? Vu l'absence du propriétaire, mon ami jugea cette demande contraire à l'étiquette. « Quoi, pour la femme de charge ? » dit-il. Le maître d'hôtel toussa respectueusement. « Miss Searle n'est pas absente, » répliqua-t-il. Je tirai de ma poche une carte de visite, un crayon, et j'écrivis sous mon nom « New York ». Tandis que je tenais le crayon à la main, cédant à une soudaine impulsion et sans trop réfléchir, j'ajoutai au-dessus de mon nom « Monsieur Clement Searle ». La femme de charge, petite vieille qui avait la mise modeste de son emploi, mais les manières d'une dame, vint bientôt nous rejoindre. Guidés par elle, nous traversâmes une douzaine d'appartements ornés de tableaux précieux, de vieilles tapisseries, de vieilles armures. En un mot, de tout ce qui constitue le luxe d'un noble manoir. Les peintures n'eussent été déplacées dans aucun musée. Il y avait là deux Van Dyck, trois Rubens et un Rembrandt d'une authenticité incontestable. Searle se promenait les yeux brillants, les lèvres serrées, comme absorbées dans une rêverie silencieuse. Enfin, l'ayant perdu de vue, je retournais sur mes pas et le trouvais dans la salle que je venais de quitter, assis sur un divan, le visage caché dans ses mains. Devant lui, rangé sur un antique buffet, s'étalait une collection de majoliques. Ces immenses plats, ces potiches, ces vases noblement ventrus et bosselés évoquèrent à mes yeux l'image du jeune voyageur qui, à près d'un siècle de distance, avait visité l'Italie et rapporté chez lui ses trésors. « Qu'avez-vous donc, Searle ? » demandai-je à mon compagnon. « Seriez-vous souffrant ? » ?»« Ce n'est rien. Un souvenir du passé, » répliqua-t-il en me montrant un visage hagard. « Je me suis rappelé un vase de ce genre qu'il me semble avoir vu dans mon enfance. « Oh, nom du ciel !» ajouta-t-il en se redressant tout d'un coup. « Emmenez-moi. Je serai capable de proclamer mon identité et d'affirmer mes droits. Ou bien j'irai trouver Miss Searle et je la supplierai de me garder ici. » Si le pauvre Searle mérita jamais de passer pour dangereux, ce fut en ce moment. Et je commençais à regretter d'avoir annoncé officieusement sa visite. Par bonheur, notre guide vint nous rejoindre et mon ami se calma. « Il ne me reste plus qu'une salle à vous montrer, » nous dit-elle, en nous conduisant vers un petit boudoir où la première chose qui me frappa fut le portrait d'un jeune homme en perruque poudrée et en gilet de brocart qui souriait au-dessus de la cheminée. « Ce tableau représente M. Clement Searle, le grand-oncle de Sir Richard, » dit la femme de charge. « Il n'a pas vécu longtemps. Il est mort en mer en se rendant aux États-Unis. » « C'est votre image, Searle, » dis-je. En effet, il ressemble étonnamment à monsieur, ajouta la femme de charge. Searle demeurait silencieux, les yeux fixés sur le portrait. « Clement Searle, en mer, se rendant aux États-Unis, » murmura-t-il. Puis il reprit brusquement en se tournant vers la femme de charge. « Pourquoi diable est-il parti pour l'Amérique ?»« Ah oui, monsieur, pourquoi ?»« Il y avait des païens, mais c'était à eux de venir à lui. » Searle poussa un petit éclat de rire. « C'était à eux de venir à lui ?»« Eh bien, ils sont enfin venus à lui, » dit-il en fixant les yeux sur la petite vieille. Elle rougit, ce qui donna à son visage l'air d'une feuille de rose desséchée. « Vraiment, monsieur ? Je crois, Dieu me pardonne, que vous êtes un des nôtres. » « Je porte le même nom que ce charmant cavalier, » continua Searle. « Parent, je te salue. » « Écoutez, il me vient une idée. Il a péri en mer et son âme s'est mise à errer sur la terre jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un nouveau logement dans mon pauvre corps, où elle souffre, depuis 40 ans, du mal du pays, secouant sa cage délabrée, me suppliant, sot et sourd que j'étais, de la ramener au séjour de sa jeunesse. Et je n'ai jamais deviné ce qui me tourmentait. Ah, j'ai bien fait de venir mourir ici. » La femme de charge écoutait avec un sourire effrayé. La scène devenait embarrassante. Ma confusion ne fut pas amoindrie en voyant une dame apparaître dans l'embrasure de la porte. « Miss Searle, » me dit à voix basse la femme de charge. Ma première impression fut que la châtelaine n'était ni très jeune ni très belle. Elle se tenait sur le seuil, d'un air timide, essayant de sourire et roulant ma carte entre ses doigts. Je m'empressai de la saluer, tandis que Searle la contemplait, immobile. « Si je ne me trompe, » dit la nouvelle venue, « l'un de vous, messieurs, est M. Clement Searle ?»« Mon ami est M. Clement Searle, » répliquai-je. « Permettez-moi d'ajouter que, si vous avez appris son nom, j'en suis seul responsable. J'aurais été fâché de ne pas l'apprendre. J'ai vu que vous venez d'Amérique, et c'est pour cela que je me suis permis de vous déranger. » Tout en parlant, elle regardait mon ami, qui se tenait silencieux juste au-dessous du portrait peint par Sir Joshua Reynolds. La femme de charge, dont le regard avait suivi celui de sa maîtresse, oubliant les convenances, ne put s'empêcher de s'écrier. « Ah, le ciel nous préserve, miss ! N'est-ce pas le portrait vivant de votre grand-oncle ?»« Je ne me trompe donc pas, » dit la châtelaine. « Nous sommes parents. » Elle était décidément très timide et semblait gênée d'être obligée de remplir sans soutien son rôle d'hôtesse. Elle devait avoir environ 30 ans. De taille moyenne, douée d'une forte santé physique qui, jointe à son âge, jurait avec son air craintif, elle avait des yeux bleus d'une grande douceur, une superbe chevelure d'un blond doré et une bouche un peu large mais souriante. Sa toilette ne se composait que d'une robe à traîne de satin noir écru. en fait de bijoux, elle ne portait qu'un collier de grosses perles d'ambre. En somme, son aspect n'avait rien d'imposant. On aurait pu la comparer à une femme mûre ayant gardé sans affectation les allures d'une jeune fille. Searle s'était sans doute imaginé que sa cousine devait être une fière beauté de 20 ans. Il parut soulagé en se trouvant en face d'une dame qui n'était ni jeune ni belle. Sa physionomie s'éclaira soudain, tandis qu'il répondait avec un salut digne du cavalier auquel il ressemblait tant. « Nous sommes cousins éloignés, je crois. Je suis heureux de réclamer une parenté que vous daignez vous rappeler. Je n'aurais pas osé la revendiquer le premier. Peut-être ai-je eu tort de ne pas attendre un peu, » répliqua Miss Searle en rougissant davantage. « Mais j'ai entendu dire qu'il y avait en Amérique des membres de notre famille. J'ai souvent interrogé mon frère là-dessus, sans toutefois apprendre grand-chose. Aujourd'hui, quand j'ai su qu'un Clément Searle parcourait cette demeure comme un étranger, j'ai senti que je devais l'accueillir. Je me suis trouvé embarrassé, je l'avoue, mon frère n'étant pas là. J'ai fait ce que j'ai pensé qu'il aurait fait. Soyez donc le bienvenu, mon cousin. » Et avec un geste à la fois franc et effarouché, elle tendit la main. « Je me sentirais vraiment le bienvenu, » dit Searle en serrant la main qu'on lui offrait, « si je pouvais espérer que votre frère m'eût accueilli aussi gracieusement. » « Vous avez vu ce qu'il y a à voir, » reprit Miss Searle, « et je compte maintenant que vous me ferez le plaisir de goûter avec moi. » Nous la suivîmes dans une salle à manger dont les portes-fenêtres s'ouvraient sur les dalles moussues de la terrasse. D'abord, la châtelaine demeura silencieuse. On eût dit une personne qui se repose après un effort pénible. Searle se montra également taciturne, de sorte que j'eus à faire les premiers frais de la conversation. Par bonheur, les beautés du parc et du manoir me fournissaient un sujet d'entretien inépuisable. Tout en causant, j'observais notre hôtesse. Elle n'était ni belle ni très gracieuse. Sa toilette annonçait un grand dédain de la mode et peut-être un certain manque de goût. Néanmoins, elle me plut. Ce qui charmait en elle, c'était un air de douceur inaltérable, un air de châtelaine séquestrée et résignée qui rappelait les temps féodaux. Elle restait si simple au milieu de ce luxe massif, si mûre et pourtant si fraîche, si timide et pourtant si calme. Miss Searle était à la Belle au Bois dormant ce qu'un fait est à un conte de Perrault, ce qu'une interprétation est à un mythe. De notre côté, nous devenions évidemment pour elle un sujet d'étude. Les Anglais les mieux élevés ont de la peine à ne pas témoigner leur surprise en voyant que leurs frères des États-Unis ne se conduisent pas tous en rustre. Miss Searle aurait pu s'étonner encore plus ouvertement sans nous froisser. Il n'y avait certes aucune intention ironique dans le compliment qu'elle crut adresser à nos compatriotes en déclarant avoir rencontré près du lac de Côme une famille américaine que l'on aurait presque pu prendre pour des Anglais. « Si j'avais le bonheur de vivre ici, lui dis-je, je ne serais jamais tenté de m'éloigner. Oh, cela pourrait finir par vous fatiguer, répondit-elle. Et puis, le lac de Côme, je donnerais beaucoup pour le revoir. Vous n'avez fait ce voyage qu'une seule fois ?
Une seule,
il y a 3 ans. Mon frère, à qui les médecins recommandaient un changement de climat, m'a emmené avec lui. La Suisse m'a ravi. sauf cette excursion, j'ai toujours vécu ici. C'est ici que je suis né. J'aime beaucoup mon cher vieux parc, bien que je me figure parfois que je l'aimerais davantage si je ne le connaissais pas par cœur. Je lui demandais comment elle passait son temps. Et elle me répondit avec lenteur, de l'air d'une personne qui se trouve appelée, pour la première fois, à récapituler les éléments de son bonheur. Je mène une existence fort tranquille. Nous voyons peu de monde. Notre famille est peu nombreuse. Et je crois qu'il n'y a pas dans les environs beaucoup de gens que mon frère tienne à connaître. Du reste, il n'aime guère que ses livres et les promenades à cheval. Un grand chagrin, la mort de sa femme et d'un cher petit garçon, a gâté sa vie, et depuis son veuvage, il préfère vivre seul. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais il doit revenir demain et il faut attendre son retour. Une fois lancée, elle se mit à bavarder d'une façon décousue sur le parc, sur sa solitude, sur l'état de ses yeux, qui ne lui permettait pas de longues lectures, sur ses fleurs et sur ses chiens. Elle s'interrompait de temps à autre, comme étonnée de sa propre audace. Mais elle avait si peu d'occasion de causer qu'elle se laissait entraîner. Je doute qu'il eût été possible de rencontrer ailleurs tant de naïveté unie à moins de sottise, tant de familiarité jointe à tant de candeur. Enfin, fixant sur mon ami ses grands yeux bleus avec une sorte de surprise fascinée, elle lui demanda « Est-ce que vous aviez l'intention de repartir sans chercher à nous voir ?»« J'y avais réfléchi, » répliqua Searle, « et je m'étais décidé à ne déranger personne. Vous m'avez prouvé que c'eût été mal agir. Mais vous saviez que nous habitons Locksley Park et que nous sommes parents ?»« Justement, c'est pour cela que je suis venu ici. C'est presque pour cela que je suis venu en Europe. J'ai toujours aimé à rêver à Locksley Park. Alors, vous désiriez seulement visiter la vieille propriété ? Et elle vous plaît ?» Searle garda le silence. « Si j'osais vous dire combien tout ce que je vois ici me plaît, » s'écria-t-il enfin. « Dites-le-moi, il faut que vous restiez quelque temps avec nous. » Searle se mit à rire. « prenez garde, » répliqua-t-il. « Vous ne pourriez plus vous débarrasser de moi. Je refuserais de m'en aller. » « Oh, je n'en crois rien. Vous regretteriez bientôt l'Amérique, et vous voudriez y retourner. » Searle poussa de nouveau un petit éclat de rire. « À propos, » me dit-il, « racontez donc à Miss Searle combien j'adore mon pays. » Et il passa sans façon par une des portes donnant sur la terrasse, suivi de deux beaux chiens de chasse qui, depuis son arrivée, semblait s'être attaché à lui. Ce fut avec une sorte de surprise attendrie que Miss Searle le regarda s'éloigner. Je me rappelais alors le conseil donné par l'aimable Simmons. « Au lieu de mourir, épousez votre cousine. » Tout m'annonçait que le cœur de la châtelaine était un sol vierge où l'amour n'avait jamais fleuri. Si je pouvais y planter quelques semences. Il a donné son cœur à l'Angleterre, dis-je. Il aurait dû naître ici. Et pourtant, il ne ressemble pas du tout à un Anglais. À quoi reconnaissez-vous cela? Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais causé avec des étrangers. Mais s'il n'a pas l'air d'un étranger, il a du moins un air et une façon de parler assez étrange. Assez étrange, en effet. Est-il marié? Il est veuf, sans enfant. Est-il riche? Non. Assez riche pour voyager, en tout cas. il n'a pas compté voyager bien loin. Sa santé laisse à désirer. Pauvre, pauvre garçon, et il allait s'éloigner sans se présenter.
Oh, il est très modeste, vous le voyez. »
Au même instant, nous entendîmes un cri aigu retentir sur le balcon. « C'est Argus !» s'écria Miss Searle, qui se dirigea vers la fenêtre et sortit sur la terrasse. Je la suivis. Appuyé sur le parapet, un bras autour du cou d'un des chiens, se tenait mon ami. Au-dessous de lui, au milieu de la grande allée, se promenait un superbe paon qui étalait toutes les plumes de sa queue. L'autre chien, après avoir en vain essayé d'intimider l'orgueilleux oiseau, obéissant à la voix de Searle, bondit sur le parapet et vint lécher la main de son nouveau maître. Ce joli tableau, avec son fond de verdure, aurait tenté plus d'un peintre. « Les bêtes, elles-mêmes, vous souhaitent la bienvenue, » dis-je en rejoignant mon compagnon. « En vérité, monsieur Searle, » ajouta la châtelaine, « vous auriez le droit d'être fier. Argus ne salue ainsi que les grands personnages. Il vous a distingué, je vous assure. Et il n'est pas le seul. Tout à l'heure, un petit lézard vert, le seul que j'aie jamais rencontré, a voulu faire ma connaissance. Pour peu que vous possédiez un fantôme authentique dans vos parages, je ne serais guère étonné de le voir apparaître, même en plein soleil. Les annales de Locksley Park vous sont sans doute familières, Miss Searle. Oh, vous vous trompez. C'est mon frère qu'il faut interroger sur ces choses-là. Ah, vous devriez avoir un gros volume de légendes et de traditions à raconter, des histoires d'amour tragiques et de meurtres à remplir une bibliothèque. Oh, monsieur Searle, on s'est toujours très bien conduit dans ma famille. Il n'y a jamais eu d'aventures extraordinaires ici, que je sache. Pas d'aventure ? Quel dommage ! Vos cousins d'Amérique ont été mieux inspirés. Tenez, moi qui vous parle. Mais non, je ne veux pas vous effrayer. Quoi ? Pas le moindre petit drame pour animer ce pittoresque décor ? Allons, ne trompez pas mon attente. À défaut du drame, vous trouverez bien un récit poétique, ancien ou moderne. Il y a si longtemps que je suis affamé de poésie. Me comprenez-vous ? Ah, vous ne pouvez pas me comprendre. Quand je songe à ce qui a dû se passer ici, quand je pense aux amoureux qui, après s'être promenés sur cette terrasse, sont allés se perdre sous ces ombrages, à tous ceux qui ont égrené ici le chapelet de leurs jeunes espérances et de leurs vieux regrets. Il se tut un instant, l'œil animé, puis continua, avec plus de véhémence encore. « Pour les évoquer tous devant moi, comme le diable seul pourrait le faire, je conclurai un pacte avec le diable. »« Oh, mon cousin !» s'écria Miss Searle avec un geste d'effroi. « Voyez cette croisée ?» continua mon ami, sans paraître entendre l'exclamation. Et il désigna une petite fenêtre en saillie qui s'ouvrait au-dessus de nous dans un cadre de lierre et de pierre sculptée. « C'est ma chambre, » dit Miss Searle. « Naturellement, ce ne pouvait être que la chambre d'une femme. Que de beautés oubliées se sont accoudées là, contemplant ce beau paysage. Oh, douce cousine que je n'ai pas connue. Mais... il m'en reste une. » À ces mots, il se rapprocha soudain de notre hôtesse, dont il saisit la main blanche et potelée. Miss Searle, trop surprise pour se défendre, la lui abandonna, mais non sans rougir jusqu'aux yeux et en pressant sa main libre contre sa poitrine. « Vous me rappelez les femmes d'autrefois, » reprit l'étrange cousin. « Vous êtes noblement simple.
C'est un roman, rien que de vous voir. Ne vous inquiétez pas de m'entendre divaguer ainsi. Hier, vous ne me connaissiez pas, et demain, vous m'aurez oublié. Laissez-moi poursuivre aujourd'hui mon rêve. Laissez-moi m'imaginer que vous êtes l'âme de toutes les mortes qui ont foulé les dalles qui gisent là comme des tablettes sépulcrales dans une église. Laissez-moi vous dire combien je suis heureux de n'être point reparti sans vous avoir vu. » Et il aurait porté à ses lèvres la main qu'il tenait si Miss Searle ne l'eût doucement retirée. Tandis qu'elle détournait la tête, mon regard rencontra le sien et je vis briller de larmes. La belle au bois dormant s'était réveillée et semblait aussi troublée qu'il convient à une personne qui sort d'un long sommeil. Par bonheur, l'arrivée du maître d'hôtel vint nous tirer d'embarras. « Un télégramme, miss, » dit-il en s'avançant vers sa maîtresse, armée d'un plateau d'argent. « Oh, je n'ai jamais eu le courage de décacheter un télégramme, » s'écria Miss Searle. « Venez-moi en aide, cousin. » Searle prit la dépêche, l'ouvrit et lut tout haut. « Je serai de retour pour dîner. Retenez l'Américain. »